Radio G.
Le 10-11, le 10-11, Lise Goodman.
Radio G.
Il est 10h, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau 10-11. Et tout de suite, on retrouve le journal d'Eva Soto. Eva, bonjour.
Bonjour Lise, bonjour à tous. À la une de l'actualité, cette attaque au drone meurtrière hier soir contre Binyamina a frappé le réfectoire d'une base de Tsahal. Le bilan est très lourd, 58 blessés. Le nom des 4 soldats de Tsahal tués viennent d'être publiés ce matin. Ils avaient tous 19 ans. Il s'agit des sergents Omri Tamari, de Yosef Iyeb, de Yoav Agmon et d'Alon Amitai. Sur les 3 drones explosifs tirés, celui qui a frappé la base de Binyamina a pu passer à travers les mailles du filet de la défense anti-aérienne israélienne. Notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk.
Un des 2 drones a été intercepté par Tsahal au-dessus de Naharia. Le second était repéré par les forces de Tsahal, mais brusquement il a disparu des radars et peu après s'est écrasé donc sur la salle à manger des unités de nouvelles recrues de la brigade Golani près de Binyamina, alors que les soldats étaient en train de dîner. Pour une raison encore inconnue, l'alerte rouge ne s'est pas déclenchée au sein de Tsahal. On vérifie actuellement comment le drone a réussi à échapper à la vigilance des forces de sécurité à plus de 60 km à l'intérieur du territoire israélien.
Notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk, par ailleurs, ce matin, l'armée israélienne annonce qu'un soldat réserviste a été grièvement blessé lors des combats d'hier dans le sud du Liban et un autre dans des combats, cette fois-ci, dans le sud de Gaza. Et retour au front nord où les tensions entre Israël et la FINUL continuent. La force d'interposition de l'ONU à la frontière libanaise, elle accuse Tsahal d'être rentré de force dans l'une de ses positions à la frontière avec le Liban. L'armée israélienne a en fait été victime d'un tir anti-char. Il fallait évacuer les blessés. Les chars israéliens ont donc dû reculer de quelques mètres vers une position de la FINUL. C'était la seule zone de repli possible pour Tsahal. Durant toute la séquence, l'armée israélienne est restée en contact avec les forces de la FINUL et s'est assurée de ne pas mettre en danger les casques bleus. Dans un message hier soir, Binyamin Netanyahou a appelé le secrétaire général de l'ONU à faire évacuer les soldats de la FINUL du Liban pour leur sécurité. C'est dans ce contexte tendu que le ministre israélien de la Défense s'est rendu hier soir à la frontière avec le Liban, aux côtés des soldats qui y sont déployés. Il s'est engagé à ce qu'Israël ne laisse jamais le Hezbollah y rétablir sa présence. À propos des villages libanais voisins, il a affirmé qu'il s'agit en fait de cibles militaires. Nos troupes y ont retrouvé des centaines de lance-roquettes, de munitions et de missiles anti-chars. Tsahal est actuellement en train de détruire ses armes au-dessus et sous terre. Les opérations vont continuer jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints, a aussi affirmé Yoav Galant. Le président du régime islamique monte au créneau après les déclarations d'Emmanuel Macron. Le président de la République, qui tout en ne nommant pas directement le Hezbollah, a appelé à cesser les attaques contre Israël. Son homologue iranien, lui, qualifie la situation de crime d'Israël au Liban et à Gaza. Selon le bureau du chef de l'État du régime islamique iranien, lors de cette conversation téléphonique, il a été question des moyens d'obtenir un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Benjamin Haddad, ministre délégué aux affaires européennes, hier au forum Radio J.
Je voudrais rappeler aussi que le président de la République, en des termes très clairs, a demandé au Hezbollah de cesser ses tirs, puisqu'on a toujours presque 100 000 Israéliens réfugiés du nord du pays depuis le 8 octobre, depuis le lendemain de l'attaque barbare du Hamas. Le Hezbollah s'est mis à tirer sur Israël et presque 100 000 Israéliens n'ont pas pu retrouver leur foyer aujourd'hui. L'objectif de la France, c'est d'obtenir le retour du dialogue régional, le cessez-le-feu à Gaza, évidemment la libération inconditionnelle des otages, l'acheminement de l'aide humanitaire et le retour du dialogue.
Benjamin Haddad, ministre délégué aux affaires européennes, le forum Radio J de Frédéric Aziza est à retrouver sur notre compte YouTube. En France, la mémoire de Dominique Bernard, célébrée à Arras un an après l'attentat hier. Le professeur de français avait été assassiné le 13 octobre 2023, poignardé par un ancien élève radicalisé islamiste. Malgré la présence de plusieurs membres du gouvernement à cette cérémonie hier, le maire d'Arras est le seul à avoir pris la parole. Et ce matin, dans les collèges et lycées, une minute de silence sera organisée en hommage à Dominique Bernard, mais aussi à Samuel Paty.
Merci Eva Soto. On vous retrouve à 10h30 pour le rappel des titres.
Radio J. Le 10-11. Le 10-11. Lise Goodman. Radio J.
Les invités de Lise Goodman.
Et ce matin, nous allons parler théâtre avec une pièce de théâtre qui s'intitule Maïola. J'ai le plaisir de recevoir en studio Caroline Darnay et Marc Duret. Bonjour, merci Bonjour. D'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, Maïola, c'est une pièce de théâtre, mais que vous présentez une enquête écrite et mise en scène par Caroline Darnay. Caroline, pourquoi ? Une enquête, expliquez-moi.
C'est une enquête parce que la pièce représente un huis clos, ça représente en temps réel l'interview qui a lieu entre cette femme, qui est mystérieuse, dont on ne sait pas qui elle est, dont on ne sait pas quel est le vrai visage, et les deux journalistes, enfin le journaliste et le caméraman. Ça se passe pendant 1h15, qui est exactement l'heure de l'interview, et c'est une enquête journalistique pour essayer de découvrir comme on coupe un oignon, en fait, toutes les couches différentes de cette femme, et chaque fois qu'on va découvrir quelque chose sur elle, on va découvrir aussi quelque chose sur le journaliste et aussi quelque chose sur le caméraman, ce qui fait que la réalité...
En fait, ça remonte, ça remet tout le monde en question. C'est ça que j'ai ressenti. Alors, je n'ai pas dit que d'un camp, Talouet, c'est comme ça qu'on prononce, voilà.
Et les Bretons.
Et le caméraman dans la pièce, bien sûr. Donc, il s'agit d'une interview, mais cette femme, ce n'est pas n'importe quelle femme, puisqu'elle est la femme d'un ancien SS dirigeant un camp travail, extermination, on ne sait pas trop.
On sait parce que c'était pas un camp d'extermination. Non. En revanche, c'était un camp de travail qui est devenu un camp de concentration qui a été requalifié après. En fait, ça se passe en 1980. Dans un hôtel de luxe à Munich. Et en 1980, Steven Spielberg est le réalisateur le plus connu au monde. Tout le monde se demande quel va être son prochain film. Et tout le monde est extrêmement étonné de savoir que son prochain film, c'est La Liste de Schindler. Et donc tout le monde se demande, mais qui est ce Schindler qui fait que Spielberg a envie de faire un film sur lui alors qu'il est au sommet de sa carrière. Et donc beaucoup de reportages vont être faits sur Schindler, sur sa vie, sur qui est cet homme-là. Et... comment il a construit la liste qui a permis de sauver plus de 1000 prisonniers du camp de Plaszow. Et cette femme est la veuve du commandant du camp. C'est indirectement la cheville ouvrière de la liste, puisque c'est grâce à elle que les deux hommes ont été amis, et que Schindler et Goethe ont pu communiquer, et que Schindler a pu récupérer des travailleurs et des prisonniers pour travailler dans son usine, qu'il a pu sauver ultérieurement. Elle a aimé passionnément cet homme, et en même temps, au sein même du foyer d'un des pires nazis du régime, elle a aidé des gens, elle a sauvé la vie de plusieurs prisonniers en les faisant inscrire sur la liste à l'insu de son mari. Elle s'est interposée quand il a essayé de frapper quelqu'un, et c'est elle qui a pris le coup. Et elle a essayé, à une toute petite échelle humaine, je dirais, d'aider les gens comme elle pouvait, parce que pour elle, elle a jamais aidé des juifs, elle a aidé des gens. Et ça a été vraiment... c'est le paradoxe de cette femme qui, d'un côté, est dans le déni par rapport à son mari, qu'elle a toujours vu comme...
quelqu'un qui est mort après la guerre.
Qui a été pendu pendant le procès de Cracovie, oui. Et pour elle, elle a toujours refusé de voir la réalité de l'horreur. Elle n'a jamais mis les pieds dans le camp, contrairement à ce qu'on voit dans le film de Spielberg. Elle a jamais été du tout dans le camp, donc elle n'a jamais été vraiment directement témoin des atrocités qu'il a commises. Et quand elle était avec lui, il a toujours fait de son mieux pour cacher au maximum sa vraie nature. Et elle-même, en revanche, elle a collaboré avec Schindler. Elle a vraiment essayé de faire ce qu'elle pouvait à sa petite échelle. Et donc le journaliste qui vient l'interviewer pour parler d'Oscar Schindler la considère par association comme une criminelle de guerre.
Bien sûr.
Et puis on va voir que le journaliste a d'autres choses à se reprocher lui-même aussi.
Oui.
Et on va commencer à rentrer dans cette espèce d'enquête policière complètement... étrange et puis qui va nous emmener dans ce labyrinthe de
alors
chacun.
Donc c'est l'histoire d'une interview en fait, si j'ose dire, d'une
c'est
rencontre,
exactement ça, oui.
Voilà, et Marc Duret, donc vous jouez le rôle de l'intervieweur entre guillemets. Est-ce que vous connaissiez cette histoire avant de rentrer dans la pièce?
Non,
mais vous aviez une idée évidemment, comme tout le monde, de ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale.
Je suis petit-fils d'un juste parmi les nations, mon grand-père oui. Francesco.
Super.
C'est pour ça que j'ai mis mon Marc Francesco Duret. Je le garde avec moi, mon... Il nonno, c'est un... Je suis de mère italienne, donc c'est le côté italien chez moi. Donc je connais, oui.
Oui, vous connaissez bien.
J'ai entendu. J'ai vu des choses aussi. Oui, c'est un personnage qui cherche la vérité.
Oui. Et alors, vous jouez le rôle, en fait, d'un résistant, d'un aviateur.
Oui, mais c'est, vous savez, ce genre de personnages qui cherchent la vérité chez l'autre.
Oui.
Et qui vont s'apercevoir que chez eux, il y en a une et qu'elle n'est pas encore sortie.
Un peu je ne veux pas dévoiler ce qui
non,
se dit
non,
à la
je
fin,
dis rien.
Mais c'est exactement ça.
Ça m'a
beaucoup touché, cette remise en question personnelle.
Grâce à elle. Comme quoi on peut... avoir à l'intérieur des démons et s'entendre, en tout cas essayer de s'entendre.
Oui, bien sûr. Alors, d'un côté, Alouette, il joue le rôle de la jeune génération, entre guillemets, un caméraman, en fait, qui n'a rien à voir là-dedans, il doit filmer, mais en fait, il rentre dans l'histoire. C'est vous qui avez choisi de le faire rentrer dans l'histoire ?
Oui, je voulais avoir un personnage qui soit... un petit peu proche de ce que j'étais à l'époque aussi, puisque j'étais très jeune en 1980, mais je pense dans les années 90-2000, où c'est quelqu'un dont le père est d'origine juive, qui a eu une aventure assez particulière, le père du caméraman.
Oui.
Et lui-même, il est né en Californie, il rêve de devenir Spielberg, mais il rêve de devenir, de réaliser Les Dents de la Mer et La Guerre des Étoiles. C'est un jeune qui était né à l'époque de Woodstock, qui a Peace and Love,
oui, c'est ça.
Du Vietnam, qui est absolument pas c'est ce qu'il dit à un moment au début de la pièce. Bon, en fait, tu sais que la guerre est finie depuis plus de 30 ans, enfin on va peut-être passer à autre chose, on peut pas ressasser les mêmes
discours. Qu'il faut aller vers l'avenir,
bien sûr.
Oui.
Et lui, il est jeune et il a envie de savoir. Et lui, il a envie de croire que même, c'est ce qu'il dit au tout début de la pièce, donc je spoile rien, que même parmi au cœur même du pire du régime nazi, au cœur même de l'Allemagne nazie, au cœur même de la Pologne, au cœur même d'un camp de travail, il y avait de l'humanité chez les Allemands.
Oui.
Et il avait envie de se dire. Et c'est un peu le thème de la pièce, qui est la responsabilité individuelle et le libre arbitre individuel. Quand toute votre vie, il faut voir que cette femme-là, toute sa jeunesse, elle est née en 1918. Donc, toute sa jeunesse, elle a entendu « Ouais, Hitler va nous sauver, c'est formidable, le Reich, Heil Hitler », de toute sa famille. Et elle n'avait aucune raison de penser autrement.
Oui.
Et malgré tout, elle avait un compas moral qui faisait que quand elle voyait un individu en face d'elle, elle voyait un individu.
Elle voyait pas un ennemi, elle voyait pas un juif, elle voyait
juste... une personne qui avait un problème et qu'elle essayait d'aider comme elle pouvait.
Oui.
Est-ce assez ou pas assez, ça on va le savoir pendant la pièce. Mmh. Et jusqu'où elle peut être quand même criminelle ou non. Mais c'est quelqu'un qui est un peu ce que ma maman avait d'ailleurs. Ma mère, elle nous a élevés en étant absolument, et c'était peut-être naïf, ma mère était d'origine suisse et elle nous a toujours élevés en disant on est des grains de poussière dans l'univers et il y a aucune distinction. Donc je dis toujours, et les gens me regardent comme une folle, je dis j'ai appris le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, la misogynie, j'ai tout appris sur le tas parce que je suis arrivée dans le monde en me disant ouais, on est tous égaux, il y a aucun problème, et tout d'un coup je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça.
C'est pas du tout le cas. Non, malheureusement.
Et cette femme-là,
on aimerait bien.
Voilà, quelque part elle l'a encore. Ce petit truc, oui. Que quand elle voit un être humain en face d'elle, elle voit juste un être humain.
Oui. Et ça, on le sent très fort. C'est quelque chose qui n'avait pas encore été mis en scène de cette façon. En fait, cette idée. Marc.
Oui. Dites-moi.
Oui, je disais que ça n'avait pas encore été mis en scène de cette façon. Cette idée que finalement... on ne voit qu'un être humain. Et vous, alors que vous, dans votre rôle, vous voyez la femme nazie que vous essayez de pousser dans ces retranchements, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est une femme amoureuse, c'est important. Oui. Une femme amoureuse, jusqu'où peut-on aimer quelqu'un ? C'est une question.
C'est aussi l'un des thèmes.
Ouais. Et je dis souvent, Shakespeare dit les yeux sont les fous du cœur. Donc, checker le cœur pour voir si ce qu'on voit est réel ou pas. Ce que j'ai aimé dans cette pièce, que j'ai lu, c'est un copain qui m'a sorti ça, j'aime bien. Je l'ai lu d'une oreille attentive.
Ah oui, c'est joli,
J'ai un copain qui fait des phrases. Bon.
Ouais.
C'est que ça touche une femme. On parle beaucoup des hommes, on parle toujours des righteous, les justes. On parle peu des femmes, c'en est une. Alors, comme tu dis...
Caroline, oui, quelque part, c'en est une, elle a vraiment sauvé des gens. Mais...
Voilà, elle est amoureuse de cet homme. Ça, c'est mon job à moi, dans la pièce, d'aller lui faire dire les choses qu'elle ne veut pas vraiment dire. Mais lui, de son côté aussi, elle est bien écrite, parce qu'on en prend chacun un peu...
Oui, pour son grade. Voilà. Alors, Maïola, ça s'écrit avec un J, je le dis pour nos auditeurs, et ça se joue au théâtre Essaillon depuis le 25 septembre et jusqu'au 27 février, tous les mercredis et jeudis à 21h. Donc, on a encore le temps largement d'aller voir cette pièce. Qu'est-ce qu'on vous en a déjà dit de cette pièce ?
Oh, ce qui est drôle, c'est que souvent, comme elle a quand même des grandes parts sombres, et le personnage du journaliste aussi, souvent quand on a des couples qui viennent, ils sortent et on les entend se disputer à la sortie, dire non, mais c'était quand même une garce, cette femme. Et puis, mais elle avait des raisons. Non, puis le journaliste, puis le caméraman. Mais moi je pense que... la discussion continue. Et il y a aussi des gens qui, comme c'est construit comme un thriller, et donc il y a vraiment des rebondissements, et on est tout le temps en train de se demander, à chaque fois on pense qu'on connaît la vérité, on apprend une nouvelle chose qui fait qu'on doute de la vérité, on sait plus où on en est, puis après maintenant on sait, puis on sait toujours pas. Et donc à la fin, quand il y a le rebondissement final, on a eu des personnes qui veulent revenir pour voir comment on joue tout ce que eux n'ont pas vu la première fois en sachant ce qu'ils savent à la fin. Donc c'est
intéressant, ça. Ouais. Oui. Et alors, dites-moi, je me suis posé la question. En fait, vous avez à moitié répondu en me disant que vous étiez d'origine suisse. Vous avez une légère intonation dans la pièce. C'est pas un accent allemand, c'est une intonation, je dirais. Je me trompe ?
C'est
je me suis demandé, que c'est très authentique.
En fait, je suis ma mère est suisse, donc je suis franco-suisse, et je suis née en Allemagne. Donc l'allemand était ma langue maternelle. Mais quand je suis arrivée en France, les enfants se moquaient de mon accent. Alors j'ai dit à ma mère, je veux qu'on arrête de parler allemand à la maison, je veux parler français, j'en ai marre qu'à l'école, tout le monde se moque de moi, parce qu'il y a des lettres qu'on prononce différemment. Donc j'ai arrêté de parler allemand. Mais j'ai toujours gardé ce petit accent. Et quand j'ai commencé à faire du théâtre, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour avoir vraiment la prononciation à la française, le mieux, avec les consonnes très marquées. Et j'avais réussi à le gommer quasiment totalement. Et depuis que je travaille cette pièce, il revient. Et maintenant, je me retrouve le matin à aller à la boulangerie en disant « Bonjour, je voudrais une baguette, madame, s'il vous plaît. » Je me dis « Mais mon Dieu, toutes ces années d'études de Victor Hugo, de Molière, de Racine, pour demander une baguette de pain, s'il vous plaît, madame.
Oui. »
Et donc, voilà, il faut que je gère quand je l'ai.
Et vous
quand
parlez
je l'ai
toujours
pas.
L'allemand, en fait.
Je parle toujours. Ça dépend. Comme je suis en France.
Non, mais quand vous êtes en Allemagne.
Quand je rentre en Suisse, oui.
En Suisse, pardon.
Mais
vous êtes en Suisse.
En Suisse, on parle Schweizerdeutsch.
Oui, je sais. Oui, je connais.
Italien aussi, d'ailleurs.
Italien aussi,
bien sûr.
Et italien.
Français, et roman.
Oui. La Suisse, c'est vraiment une plaque tournante en Europe, on peut le dire. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite tout le succès que cette pièce mérite. Ma dernière question, très rapidement, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous dise et qu'on ne vous en a pas encore dit ?
Sur la pièce ?
Oui, sur votre rôle, sur la pièce.
Revenez.
D'accord. Parfait. Et vous ?
J'aime bien le fait que personne n'est vraiment certain au final de qui était cette femme, et que malgré toutes les certitudes qu'on pense avoir, on est encore capable de changer d'avis. Donc j'aimerais qu'on dise j'ai envie de la revoir pour me faire une autre opinion et essayer de préciser les choses, parce que même maintenant, et on la côtoie depuis un an maintenant, depuis qu'on l'a créée, on se pose encore des questions et on est encore en train de découvrir des choses.
En tous les cas, bravo pour cette pièce remarquable, Maïola, donc au Théâtre Essaillon, 6 rue Pierre Aulard dans le 4e, métro Hôtel de Ville ou Rambuteau en plein centre, jusqu'au 27 février, les mercredis et jeudis à 21h, et on réserve sur Essaillon, e2saion.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci,
Marc Duret et Caroline Darnay. Voilà. Merci à tous les deux et bravo pour cette pièce. À bientôt.
Merci, ministre,
quand
journée.
Vous le souhaitez sur Radio J. Au revoir.
Au revoir.
Radio J. Tous les lundis, 21h, 22h.
Classico.
Salut, c'est Steve Nadjar. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Almeta, Grégory Schneider, ils sont déjà venus à Classico. On vous y attend, soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h, sur Radio J.
Radio J.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11, le 10-11, Lise Goodman.
Radio J, cette semaine à l'Agence Juive. Sarah Cohen, bonjour, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour Lise.
Alors Sarah, vous allez nous parler d'une réunion d'emploi que vous organisez depuis peu à l'Agence Juive. De quoi s'agit-il ?
Oui, nous organisons mensuellement des réunions emploi par Zoom. Alors, il faut comprendre que pour ouvrir son dossier de l'ALIA à l'agence juive, il y a donc ce prérequis d'avoir participé à une réunion d'information sur l'ALIA, de manière générale. Voilà, c'est des réunions qui se passent toutes les 2 semaines et ça dure à peu près une petite heure par Zoom. En plus de ça, nous avons décidé en fait de cibler le public et donc de rajouter à ces réunions d'information sur l'ALIA des réunions spécialement sur l'emploi, qui permet au public de comprendre en fait tous les aspects qui leur sont offerts, toutes les aides qu'ils peuvent recevoir dans le cadre de leur ALIA au niveau de l'emploi. Je m'explique. Il y a, on en a parlé d'ailleurs là, il y a 2 semaines de cela, des formations par exemple professionnelles qui sont proposées dans le cadre de l'ALIA, gratuites. Alors par exemple, lors de ces réunions sur l'emploi, je vais m'attarder sur chaque formation et je vais expliquer aux candidats à l'ALIA quels sont les prérequis et en quoi consistent ces formations. Mais en plus de ça, Lise, je explique tout ce qui est reconnaissance de diplôme, équivalence professionnelle, bref, tous les services que l'agence juive propose au sein du département emploi.
Alors, justement, donc, quand vous dites des formations, c'est dans tous les secteurs, c'est énorme.
Oui, il y a énormément effectivement de secteurs d'activité. Il y a des programmes d'intégration professionnelle avec logement compris.
Oui.
Et il y a aussi des formations professionnelles. Et cela, il y en a plus de 3000 qui sont subventionnées par le
ministère
de l'ALIA et de l'intégration.
Est-ce que toutes les semaines, vous nous présentez un secteur Vous voyez, c'est quand même assez serré. Et là, d'un coup, ça ouvre à tout, quel que soit les métiers, quel que soit le domaine.
Oui, bien sûr.
Ouais, c'est impressionnant, en fait.
C'est vrai, on essaie de s'adapter à chaque fois au marché du travail israélien et aux besoins, bien évidemment, des candidats à l'ALIA. Et c'est vrai que ça ouvre vraiment à tous les secteurs d'activité, de par les équivalences professionnelles, par exemple, ou donc pour toutes les professions qui sont réglementées, qui doivent passer par cette fameuse procédure d'équivalence, comme on en a souvent parlé hein, avec vous, Lise, par exemple pour les électriciens, pour les médecins, pour les avocats, et de par les formations professionnelles, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont concernées par cela, c'est-à-dire qui souhaitent vraiment se reconvertir professionnellement dans le cadre de leur ALIA. Donc nous les aidons dans cette procédure-là.
Donc ce sont des réunions vraiment importantes. Quels sont les besoins en Israël en fait en ce moment ? Dans quel domaine on a le plus besoin de personnes ? Dites-nous.
Alors, actuellement, il faut savoir que, bien sûr, tout ce qui est domaine de santé, bien évidemment, on a toujours besoin de professionnels en santé. Nous avons besoin aussi énormément de personnes qui sont spécialisées dans la sécurité, cybersécurité.
Ah oui.
Voilà,
oui.
Ça, c'est, il faut savoir. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est finance, banque et finance, qui marche très bien. Il y a énormément d'offres d'emploi. Et il y a aussi tout ce qui est enseignement. Il faut savoir que, comme en France, il manque cruellement d'enseignants en Israël. Donc aussi, c'est un domaine d'activité où il est possible de se reconvertir, pourquoi pas, ou alors de continuer tout simplement en Israël dans ce domaine-là d'activité.
Alors, Sarah Cohen,
on en parle justement oui. lors de ces réunions des domaines d'activité qui sont en plein essor en Israël.
Alors, justement, donc, pour tout cela, j'ai bien compris qu'il fallait parler l'hébreu.
Oui,
on ne peut pas sans la langue.
Bien évidemment, hein, c'est mon point final justement lors de mes réunions d'emploi, c'est que je conclue par ça. L'apprentissage de la langue est essentiel pour pouvoir s'intégrer professionnellement en Israël, effectivement.
Eh bien, pour tout cela, on va sur agencejuive.org, voilà, agencejuive.org, et là, on trouve tous les renseignements dont on a besoin pour vous joindre, Sarah Cohen.
Voilà. Exactement, Lise. Exactement.
D'accord. Merci.
Merci beaucoup.
Avec plaisir et plein de succès pour ces nouvelles réunions. Au revoir. Merci.
Au revoir.
Shavua Tov. Et puisqu'on est en Israël avec Sarah Cohen, ben on y reste avec Doudou Aaron. Yalda Shel Abba, la fille à son papa.
הבאתי לך ירח, שישמור לי אותך בלילות של אלפי כוכבים, כמו תפילה לדרך, לאן שתלכי. ואת עוד לא יודעת, בחיים כדי לזרוח צריך גם לדעת ליפול, אם ים זה כמו הנפש, את התרופה להכל. את זה כל חיי אהבה בלי די מה אומרות עיניי כשאת רצה מחבקת איך כזאת ענה לב כזה גדול לא צריך לשאול כי את ילדה של אבא ילדה של אבא ילדה שלי אני תמיד אדאג לך כמו נשר בא חיי אהבה בלי די מה אומרות עיניי כשאת רצה מחבקת איך כזאת קטנה לב כזה גדול לא צריך לשאול
14h-15h, le grand journal, Steve Nadjar.
Je vous donne rendez-vous tous les après-midi à 14h dans le grand journal. Une heure d'information et de décryptage en direct sur les sujets qui vous concernent. Le grand journal, 14h-15h, et c'est seulement sur Radio J.
Radio J.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11, le 10-11, Liz Goodman.
Radio J.
Il est 10h30 et tout de suite on retrouve le rappel des titres avec Eva Soto. Eva, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, cette attaque meurtrière au drone hier soir du Hezbollah contre la région de Binyamina. Plus exactement contre une base de Tsahal. Elle a frappé le réfectoire au moment du dîner. Le bilan est donc très lourd. Il y a eu 58 blessés. Le nom des 4 soldats de Tsahal tués viennent d'être publiés. Tous n'avaient que 19 ans. Il s'agit des sergents Omri Tamari, de Yosef Iyeb, de Yoav Agmon et d'Alon Amitai. Sur les 3 drones explosifs tirés par le Hezbollah, celui qui a frappé la base militaire est passé à travers les mailles du filet de la défense anti-aérienne. Par ailleurs, ce matin, l'armée israélienne annonce aussi qu'un soldat réserviste a été grièvement blessé lors des combats d'hier dans le sud du Liban et un autre dans des combats dans le sud de Gaza. Et sur le front nord, les tensions entre Israël et la FINUL, la force d'interposition de l'ONU à la frontière libanaise. Hier soir, dans un message vidéo, Benjamin Netanyahou a appelé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à faire évacuer les soldats de la FINUL. C'est dans ce contexte tendu que le ministre israélien de la Défense s'est rendu à la frontière avec le Liban, aux côtés des soldats de Tsahal qui y sont déployés. Il s'est engagé à ce qu'Israël ne laisse jamais le Hezbollah y rétablir sa présence. La mémoire de Dominique Bernard, célébrée à Arras hier, un an après l'attentat, le professeur de français avait été assassiné le 13 octobre 2023, poignardé par un ancien élève radicalisé islamiste. Ce matin, dans les collèges et lycées, une minute de silence est organisée en son hommage et aussi en hommage à Samuel Paty.
Merci Eva Soto. On vous retrouve à 11h sur RadioJ.fr et DAB+ pour un nouveau journal.
Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati.
Radio J.
Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h20 pour le Club Imo. Rejoignez-moi pour un tour de l'actualité de l'Imo, des analyses éclairées et les discussions passionnantes avec les meilleurs experts du secteur. Le Club Imo, c'est votre rendez-vous incontournable. À tout à l'heure, 16h20 sur Radio J.
Radio J.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11.
Le 10-11.
Liz Goodman.
Radio J.
Radio J.
Les invités de Liz Goodman. Radio J.
Et j'ai le plaisir d'accueillir en studio Sophie Andrieux. Sophie Andrieux du MAJ, du Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme. Sophie, bonjour. Alors bonjour, ça Lise. Devient un rendez-vous régulier qui me remplit d'aise, qui nous remplit d'aise, puisque nous parlons maintenant tous les mois sur Radio J de la programmation du MAJ, du Musée d'Art et d'Histoire. Alors, au cœur de cette programmation, jusqu'en janvier, c'est le D-Book. On va en parler dans quelques instants avec Pascal Samuel. Le D-Book, c'est le Yiddish. On va en parler dans quelques instants avec Michel Tauber. Mais pour l'heure, chère Sophie, je vous laisse nous rappeler les temps forts qui viennent d'avoir lieu au musée.
La semaine dernière, Lise, nous avons eu une journée extrêmement riche, une semaine plutôt, extrêmement riche, avec deux rencontres exceptionnelles que vos auditeurs pourront retrouver sur la chaîne YouTube du musée ou sur le site du musée. Nous avons reçu Luz, vous vous souvenez bien sûr de Luz, dessinateur bien de presse de Charlie Hebdo, qui échappe à l'attentat donc le 7 janvier. Il a été notre invité pour une nouvelle, sa dernière bande dessinée qui s'intitule Deux filles nues, où il retrace l'histoire d'un tableau spolié par les nazis. C'est extrêmement riche, extrêmement intéressant, et l'originalité même formelle, c'est que en fait on est du point de vue du tableau. Le tableau devient témoin de toute cette histoire et nous raconte tout ce qu'il a pu traverser, donc du moment de sa création par le peintre Otto Müller jusqu'à sa restitution
auprès donc des descendants du collectionneur qui avait ce tableau. Et nous avons aussi proposé un hommage à Milena Jesenská. Vous savez aussi, Lise, donc Milena, c'est l'absente des lettres à Milena de Franz Kafka. Et avec Léa Weinstein et Christine Le Cerf, nous lui avons, si on peut dire, redonné un nom de famille, nous lui avons redonné une histoire de la Prague des années 20 qui va jusqu'à sa déportation à Ravensbrück, là où elle rencontre Margarete Bubernemann, qui était comme elle également résistante. Et Margarete Bubernemann écrit un livre qui raconte donc l'histoire de Milena. C'est une promesse qu'elle s'était faite, toutes les deux. Elles sont devenues amies au camp de Ravensbrück. Et elles avaient décidé d'écrire un livre sur leur histoire. Malheureusement, Milena décède en 1944. Et donc, Margarete tiendra cette promesse. Et c'est de ça dont nous avons parlé. C'est extrêmement fort et émouvant.
J'en suis sûre. Voilà. Et on retrouve tout sur la chaîne YouTube du MAJ. Hein.
C'est ça.
MAJ, c'est important de le préciser. Et puis, hier, donc une journée en famille de dimanche dès 18 mois, expliquez-nous.
Alors, hier...
Marc, il n'est jamais trop tôt pour venir avec son bébé au musée d'art et d'histoire.
Voilà, nous avons, nous avons reçu les familles hier et pour la première fois proposé des visites pour les enfants à partir de 18 mois jusqu'à 3 ans. Et c'est des visites dans les collections permanentes du musée qui...
Avec des bouts de choux qui couraient partout.
Avec des bouts de choux qui couraient.
Avec le doudou qui le
pousse. Sage, voilà, et qui devait chercher les petites bêtes cachées dans les œuvres exposées au musée. Mais donc, nous avions aussi d'autres ateliers pour enfants de 4 ans à 12 ans.
Oui. Donc, de beaux événements, de grands événements. Et quand on les rate, la chaîne YouTube, c'est quand même génial parce que on peut y retourner. Alors là, on a un colloque qui arrive à grands pas. Ce sera dimanche, le colloque des musiques ashkénazes. Alors, c'est entre autres organisé par Alice Mazen et Michel Taubert, avec qui, je pense, nous sommes en ligne.
Tout à fait.
Voilà, tout à fait. Michel, bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci d'être avec nous ce matin pour nous présenter un peu ce qui va se passer dimanche prochain au MAJ.
Alors, c'est donc un colloque. J'ajoute une toute petite précision. Bonjour d'abord tout le monde, et bonjour Lise, et bonjour Sophie et les autres. Il s'agit de musique ashkénaze en France.
Oui.
Donc, toutes les traditions. Qu'elle soit liturgique, qu'elle soit évidemment klezmer, la chanson yiddish, tout ça se passe en France et se déroule sur deux jours, dont évidemment la grande journée d'ouverture, hommage dimanche prochain, colloque organisé effectivement, tu l'as dit, par Alice Mazen, par Hervé Rotten, par Jérôme Claire, par Alexandre Cerveux, et donc moi-même, une petite équipe, et donc le MAJ nous accueille, nous a largement ouvert ses portes pour la journée introductive qui va démarrer en grande pompe avec, à tout seigneur, tout honneur, la chanson yiddish, où nous allons présenter une espèce d'historique dès l'apparition de la chanson yiddish en France, dès l'apparition des chorales yiddish, et pour ce, nous aurons des invités de marque. Je cite dans le désordre Jacinta, Talila, Jean Goljevit, Laurent Mandelstam et la nouvelle génération. Là, nous avons dû malheureusement faire un choix cornélien. Et seront présentes Judith Marx de Marx Lister et Elsa Signorile de Nora Bissalé, entre autres.
Oui.
Elsa a plusieurs cordes à son arc. Donc ça, ce sera pour le matin. Et l'après-midi...
Ça commencera à quelle heure, ce colloque?
Ça commence dès
9h. 9h45.
Voilà.
Ah, voilà.
Mais pour le yiddish, on se lève tôt, c'est pas grave. Et donc, l'après-midi,
grand plateau klezmer tous azimuts, avec, encore une fois, tout seigneur, tout honneur, une conférence de Denis Cugnot himself. Et puis,
Denis Cugnot, dont le groupe, le trio Yacht, a fait vraiment hier
un tabac au
théâtre de la ville extraordinaire. Voilà, je voulais le dire.
Donc, Denis, mais aussi toute une pléthore de jeunes gens et de jeunes femmes qui se sont plongés dans la musique klezmer. Et donc on a évidemment, j'ai pas le programme sous les yeux, mais
oui. Disons qu'elle est représentante de la jeune génération du milieu klezmer, dont Alice Mazen, qui a fait une thèse là-dessus et qui a co-organisé avec vous. Voilà.
Donc, je voulais juste ajouter pour le matin, parce que j'ai oublié, voulais quand même rendre à César, Michel Fornhof-Levitt, qui n'est peut-être pas très connue sous nos yeux parisiens, qui est bruxelloise, et qui a fait une thèse magistrale sur le théâtre yiddish, et qui va donc évidemment nous exposer la musique dans le théâtre yiddish, et ça, ce sera vraiment une communication, comme on dit, en langage universitaire. Elle va ouvrir le banc à 10h, 10h et quelques, dimanche matin au MAJ.
Alors, non seulement donc colloque, mais le lendemain, c'est Hervé Rotten qui sera aux commandes pour quelque chose de plus académique, de plus universitaire, d'après ce que j'ai compris.
Oui, certes. D'abord parce que ça se passe à l'université, à l'INALCO, 35, j'ai oublié, rue des Grands Moulins à Paris 13e, mais surtout parce que c'est le côté, évidemment, liturgique. Et alors là, on repart beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en arrière, puisqu'on repart carrément au Moyen-Âge. Et donc là, il y aura la liturgie, évidemment, ashkénaze, sous tous ses aspects. Et on a des grands professionnels qui nous arrivent de Hongrie en particulier. Je pense à Judith Rizieski qui sera avec nous. Et puis donc, bien sûr, Hervé Rotten, Alexandre Serveux également. Et, alors, chacune des journées va se clore par un concert. Alors,
c'est un peu normal, on va dire. À parler de musique, il faut chanter aussi.
Voilà, alors petite intervention musicale. Le dimanche, hommage, Jacinta et moi-même unirons nos voix dans un court récital. Et puis les Platzl Bandits seront également au menu et vont nous régaler évidemment de musique klezmer.
Voilà.
Le lendemain, c'est un concert qui aura lieu à Copernic. Alors là, vraiment, de musique ashkénaze, rituelle, chantée en ashkénaze, comme il se doit.
En ashkénaze, je savais pas que c'était une langue, mais c'est intéressant.
En hébreu ashkénaze,
voilà. Merci Michel Tauber pour tout cela et on vous souhaite plein de succès pour ce colloque. À très vite.
Merci
sur
beaucoup.
La scène
Très
du
bonne
musée
journée.
D'art et d'histoire. Au revoir.
Au revoir.
Alors Sophie Andrieux, donc un colloque énorme auquel vous participez également puisque c'est programmé dans l'auditorium du MAJ.
Oui, on participe, on a ouvert nos portes à cette proposition de Michel Tauber, Alice Mazen et Hervé Rotten. D'autant plus que pour nous, c'est extrêmement réjouissant de recevoir des artistes qu'on invite plutôt qu'on a l'habitude d'inviter pour des concerts, qu'on voit se produire sur scène. Et là, ils vont venir nous expliquer un peu plus leurs pratiques, d'où viennent ces créations et nous parler vraiment de leur composition et de leur art. Donc
on a compris qu'il y aurait les deux, c'est-à-dire des interventions, mais aussi de la musique, des concerts. Ça va pas être uniquement de la parole.
Non, mais ça va être quand même beaucoup. De la parole toute la journée. Et en clôture, à 18h, il y aura un petit moment musical d'une petite heure. Mais c'est pas véritablement un concert, mais... Voilà, on sera vraiment heureux de retrouver Denis Cugnot ou Judith Mars ou David Konopnicki qui ont pu se produire sur cette même scène de l'auditorium.
Bien sûr.
Il y a peu de temps.
Exactement. Alors, une très très belle journée en perspective et un très beau colloque. Alors, d'autres choses en prévision hommage.
Alors, mercredi 16 octobre, nous recevrons l'historien de l'art Paul Bernard Noureau, qui a réalisé véritablement un travail colossal, une histoire de l'art d'Auschwitz, qui vient d'être édité par l'Atelier Contemporain. Et il va donc nous parler de comment de nouvelles formes artistiques se sont progressivement élaborées à l'ombre proche de l'événement, c'est-à-dire de la Shoah. Donc, on va revenir sur la déformation de la figure avec Fautrier, Musich ou Picasso, et aussi sur l'abstraction dans les œuvres de Mark Rothko ou Barnett Newman, par exemple.
Magnifique.
Ça, c'est mercredi, pour ceux qui ne peuvent pas venir, évidemment, la conférence sera mise en ligne sur notre chaîne YouTube.
Super. Et puis, vous me parliez de Raphaël Enthoven.
Oui, et donc la semaine suivante, mardi 22 octobre, Raphaël Enthoven nous lira ses lettres à un ami arabe sur la scène de l'auditorium.
Oui, ça va être aussi un moment émouvant et intéressant. Il faut réserver, on va sur mag.org, hein, mag.org, c'est la clé. Aujourd'hui, on réserve, on vient pas comme cela directement.
C'est mieux de réserver, après on peut tenter sa chance le jour même, mais c'est une petite prise de risque.
Alors, moi j'ai une sous-question, il y a un D-book dans les couloirs du musée?
Il y a beaucoup d'e-books.
Oui, il y a beaucoup, ça fait peur. Non.
ça fait très peur, mais ça a beaucoup plu aux enfants ce week-end, samedi, et ça leur plaira beaucoup pendant les vacances scolaires.
Oui.
Parce que nous organisons et nous allons proposer plusieurs ateliers pendant les vacances, et notamment autour du D-book.
Mais oui, les ateliers du MAG, je ne peux que les conseiller, et depuis toujours, c'est exceptionnel, c'est une pédagogie incroyable, alors inscrivez vos enfants. Voilà, et puis c'est par tranche d'âge, toujours.
C'est par tranche d'âge,
c'est important.
De 4 à 7 ans, ou de 8 à 12 ans.
Voilà.
Il y a plusieurs propositions d'ateliers, de thématiques, donc n'hésitez pas.
C'est super. Pascal Samuel est en ligne avec nous. Bonjour Pascal.
Bonjour Lise.
Alors vous êtes la commissaire d'exposition de l'exposition sur le D-book Fantôme du monde disparu, une exposition qui se tiendra jusqu'au 26 janvier. C'est quoi cet intérêt pour le D-book qui revient? Il revient à chaque génération, Pascal?
Exactement, il revient à chaque génération et puis ce D-book nous donne l'occasion de faire une exposition qui est un peu comme une invitation à faire une grande traversée à travers la culture yiddish depuis les œuvres de Marc Chagall, mais aussi d'explorer le cinéma, parce qu'on oublie parfois que ce n'est pas qu'une question, une culture qui s'exprime seulement dans la littérature, mais c'est aussi une culture qui s'est exprimée fortement au cinéma. Donc on revient là-dessus et puis effectivement on parle de la génération de Chagall, mais aussi de celle de Sidney.
Attendez, vous pourriez, on vous entend mal. Est-ce que vous pourriez essayer peut-être de bouger un petit peu?
Eh ben, je suis sur un téléphone fixe pourtant à mon bureau.
Ah oui.
Hommage.
D'accord.
Est-ce que là vous m'entendez mieux?
Un peu mieux, oui. Voilà.
Voilà. Donc effectivement, je suis en train d'essayer de répondre à votre question. Est-ce que ça concerne toutes les générations? Pour vous dire que ce sont des créateurs à la fois la génération de Marc Chagall, mais aussi des créateurs nés après-guerre, comme Sidney Lumet ou Leonard Bernstein, qui se sont intéressés à la figure du D-book jusqu'à des créateurs d'aujourd'hui.
Alors, justement, donc, quelles vont être, je sais qu'il y a la projection du film qui est complète, mais vous avez rajouté, je crois, une projection. Oui, Sophie.
Alors, on rajoute, en effet, c'est déjà complet, donc merci beaucoup, on se réjouit du succès de cette projection. Le jour même, à 16h, on va rajouter une autre séance.
Alors, le jour même, c'est-à-dire?
Alors, le jour
Pascal,
même, c'est-à-dire, c'est en novembre.
Le 6 novembre.
C'est en semaine.
C'est
vendredi 6 novembre.
C'est en semaine, mais pour ceux qui peuvent se libérer à 16h, nous rajoutons donc une séance.
Oui, donc ça va être un moment très fort. C'est un film que j'encourage à voir et qui est quand même emblématique et dont la thématique touche à l'universel, Pascal Samuel. Non seulement le film, mais le thème.
C'est une histoire de fantôme, mais c'est surtout une histoire d'amour. Et puis c'est un film qui fait revivre toute une vie, toute une culture. Hein.
Oui, tout à fait. Combien de temps vous avez mis à monter le projet, l'exposition? Qu'est-ce qu'on peut y voir de particulier?
Alors, c'est une exposition sur laquelle j'ai commencé à travailler il y a maintenant 3 ans. Et
ah oui.
Parce que c'est à peu près les délais nécessaires pour réfléchir, parce que c'était un peu une page blanche que de faire une exposition sur le D-book, de savoir un peu dans quelle direction on partait. Puis le D-book, à la différence d'un golem, ça n'a pas de forme, une âme errante, on peut pas la représenter.
Non.
Donc il fallait trouver d'autres biais pour évoquer le D-book. Donc l'exposition commence par exemple sur une grande toile de Marc Chagall qui s'appelle La Noce, une toile de 1912 qui est vraiment, elle nous plonge. Elle nous permet de faire un grand voyage dans le temps et dans l'espace pour nous plonger dans la vie du shtetl. C'est une exposition qui donne aussi une grande place au cinéma. Donc, je pense que c'est aussi intéressant d'avoir non seulement des images très grandes et puis la possibilité de s'immerger comme ça dans l'image.
Oui.
C'est aussi une exposition qui fait une place à l'expédition ethnographique, à la première expédition ethnographique juive qui a été réalisée dans les bourgades de l'actuelle Ukraine, Baranski. Et puis, c'est aussi l'occasion de découvrir les esquisses pour les décors et les costumes du d'e-book joué sur scène à Moscou par le théâtre Abima,
qui va plus tard magnifique. Devenir...
Voilà, et qui sont des esquisses qui ont été réalisées par Nathan Altman, qui est un artiste de grand talent, de la même génération que Chagall. Et c'est des œuvres qui nous sont prêtées par les musées israéliens et qui sont présentées à Paris pour la première fois.
Donc et il puis, faut bah, y voilà. courir, il faut y courir à cette exposition.
Mais en tout cas, je vous y accueille très volontiers très prochainement.
Ah bah bien sûr, avec plaisir. On laisse passer juste les fêtes et après, ce sera avec même bonheur. Alors, je voulais juste mettre un petit point d'orgue. On parlait des enfants, mais vous avez pensé aux ados avec un mystery game. Tremblez, le D-book est au musée. C'est pour les adolescents. Et ce sera le mercredi 30 octobre à 17h et le jeudi 26 décembre à 18h. Inscrivez vos jeunes à l'avance, c'est une idée géniale, bravo, et des bonnes idées comme celle-là, vous n'en manquez pas au musée, il faut aller sur le site mage.org. Merci Pascal Samuel, bravo pour cette expo et on a hâte de la découvrir, on y court, merci. Alors merci. Sophie Andrieux, cette expo elle représente quoi pour vous?
Cette exposition.
Vous aviez entendu parler du D-book,
bien
évidemment.
Bien sûr, nous avions d'ailleurs déjà projeté le film.
Oui.
Le film à,
je me souviens.
À l'auditorium. Et cette exposition, c'est une manière de redécouvrir une légende juive et de la faire découvrir aussi à d'autres générations, à de nouvelles générations.
Mais oui.
Hier, d'ailleurs, j'y étais avec mes enfants et avec des aimés à eux. Et c'est une manière de se réapproprier aussi cette grande figure. Et de voir aussi comment elle a pu aller au-delà du monde juif, notamment dans le théâtre polonais ou dans la danse contemporaine. Et c'est extrêmement fort de voir la persistance de cette figure-là. Donc pour moi, c'est vraiment
danse,
une très belle exposition.
Oui, il y a une modernité au niveau de la danse dans ce film assez incroyable.
Ah, dans le film, oui, c'est un film expressionniste avec une chorégraphie vraiment incroyable qu'on pourrait même s'amuser à reprendre et à détourner tellement... Et d'ailleurs, c'est la scène qui ouvre l'exposition. Vous pouvez voir cette scène où donc Léa est dans au moment de la noce et il y a donc le Dibou qui est incarné un peu comme un fantôme qui arrive et qui danse avec elle. Et c'est une chorégraphie vraiment, vraiment magnifique.
Donc, on y va, toute génération confondue.
Tout à fait.
On y court. D'abord, toutes les informations pour s'inscrire sur mage.org. L'expo, c'est jusqu'en janvier. Donc, on a le temps. Et là, les vacances demi-trimestre arrivent à grands pas. On en profite. Mais je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, chère Sophie Andrieux.
Merci, Lise Gutmann.
Et on termine avec la très belle voix de Michel Tauber, accompagnée au piano de Denis Cugnot, et histoire de se mettre dans l'ambiance du colloque du vin. Merci beaucoup.
Merci,
au revoir.
Lise.
Spiel, je mirani, in der Luft jüdisch. Es mag sein, mis nagdisch, oder chsidisch. Als die Buben nur allein, soll können du's verstehen. In Tage hatten alle gehen. Oi, 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 spiel. Jedes Herz mit Gefühl. Spiel, spiel, spiele Tänzele für mich. Spiele Wette mit ner Schube, mit Gefühl. Spiel, je mir an die Wendel von Leiden.
als die Kinder groß und klein sollen können du's verstehen, in Tage hatten solle gehen. Oi, 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 spiel, spiel, kleines Mal spiel, wie jedes Herz mit Gefühl. Spiel, 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 tänzele vor mir, spiel ich weiter mit ne Schuhe, mit Gefühl.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11, le 10-11, Lise Goodman.
Radio J.
Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles au 10-11 de Radio J. À 11h sur radioj.fr et DAB+, vous retrouverez le journal d'Eva Soto. À 14h, celui de Steve Nadjar, votre grand moment d'info de l'après-midi sur Radio J. Une édition spéciale en direct au plus près des guerres en Israël contre le Hamas et le Hezbollah. Steve Nadjar recevra aujourd'hui le diplomate israélien Simon Seroussi. Vous écouterez également les chroniques d'Alexis Lacroix, de Pascal Sunshine depuis Jérusalem et de Chaim Nissenbaum. Alors rejoignez-nous à partir de 14h sur Radio J, un grand journal que vous pouvez suivre également sur radioj.fr et l'application Radio J. Merci à Serge Surpin à la réalisation technique et comme tous les matins, l'espoir, Hatikva, je vous retrouverai dès demain matin pour un nouveau 10-11.
Je vous donne rendez-vous tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure d'information et de décryptage en direct sur les sujets qui vous concernent. Le Grand Journal, 14h, 15h, et c'est seulement sur Radio J.
Radio J.
écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J, restez informés. Écoutez Radio J.